La musique de l'ascenseur, chapitre 26. Une douche revigorante et un café avalé rapidement, puis il prit la direction du commissariat. Tout se bousculait dans sa tête, les affaires présentes et passées. Il ne pouvait évacuer l'air obsédant de l'ascenseur pour l'échafaud. Les scènes du film se mélangeaient avec les visages de Joël Lambert et de Jack Numa. Jamais dans sa carrière d'inspecteur, il n'avait rencontré un tel embarras après l'épilogue d'un dossier. Il flairait un côté malsain dans cette histoire, comme si un sixième sens le prévenait d'anomalies non décelées. À 10 heures, il rencontra le commissaire qui le taquina sur son arrivée tardive. Il éluda les questions. Il se borna à dire qu'une erreur de manipulation de son appareil électronique était à l'origine de son retard. Le supérieur ne fut pas dupe. Il en resta là, préférant remettre le couvert à une occasion plus propice. L'inspecteur lui en sut gré. Il n'avait nulle envie d'entamer une conversation sur ses préoccupations du moment. Sa conscience lui commandait de se taire. À midi, il préféra rentrer chez lui. Il mangea 2 tranches de jambon et 1 tomate coupée en rondelles. Prêta l'oreille au disque donné par Jacqueline Lambert. Miles et son instrument pénétraient par tous les pores de sa peau. L'association avec les drames de la rue Paquet exacerbait sa perception de cette musique. Il repassa le CD avant de retourner au travail. Il occupa son après-midi à consulter des documents. Sans grand enthousiasme, son esprit vagabondait ailleurs. Il rentra tôt chez lui. Il se fit couler un bain en écoutant une cassette de feu Joël Lambert. Le policier somnolait dans la baignoire, en savourant le son pur de la trompette. Reconnaissable parmi tous ses congénères, le virtuose obtenait des sons incroyables. Il dégustait avec délice un enregistrement public d'un groupe fusion réalisé au Festival de Vienne. Joël Lambert avait mélangé des morceaux joués par son idole à d'autres se réclamant de son école. Soudain, l'ambiance musicale cessa, laissant place à un rire rock. Il fronça le sourcil en signe de surprise et d'attention. Quelqu'un se mit à parler. La bande devint presque inaudible et ce rire caractéristique ponctuait les propos. Il se prépara un plateau repas. Il voulait voir une émission à la télévision qui traitait de problèmes de société avec en sujet principal l'inceste. Assis confortablement dans un fauteuil club, il savourait un verre de Chablis. Le programme commençait dans moins d'un quart d'heure. En attendant, le jazz reprit ses droits. La face A se termina par un duo piano et trompette, interrompu par la fin du défilement. Il rembobina et appuya sur le bouton play de la platine. Il entendit à nouveau retentir un rire. Il se leva et se dirigea vers la chaîne IFI. Il stoppa le défilement, fit un retour rapide en arrière et augmenta le volume sonore. Il identifia le rire de Joël Lambert. Il écouta attentivement ce que disait l'homme qui s'exprimait. Aucun doute ne subsista. Il s'agissait bien du défunt qui discourait et riait. Cette voix posthume lui fit un drôle d'effet, comme si un zombie sortait des ténèbres pour lui délivrer sa déclaration. Une seule chose le rassura. Il était chez lui et non dans un cimetière. Il se repassa plusieurs fois la bande pour déchiffrer la teneur des paroles du disparu. Au 3e passage, il se rappela tout ce que l'ancien détenteur de la cassette disait. Le sieur Lambert affirmait avoir mystifié tout le monde. Ses premiers mots l'agacèrent. Il n'aimait pas que l'on se moque ainsi de son travail. L'enquête s'était révélée suffisamment tordue sans avoir besoin qu'une voix venue d'on ne sait où vienne tout bousculer en ironisant ainsi. Et ce rire guttural, entrecoupé de quintes de toux, rendait sa confession encore plus pathétique. Lorsque la toux cessait, l'homme reprenait son monologue. Il déclarait avoir effectué son dernier pèlerinage à la Croix de l'Alpe au printemps précédent. Il peina beaucoup pour atteindre son but. Il parlait du crabe qui lui prenait toutes ses forces. Il ajoutait que la croix trônait là depuis des siècles et que personne ne l'enlèverait. Avec son piolet, il avait pu faire le nécessaire. Il n'en croyait pas ses oreilles. Il soupçonnait une farce post-mortem du défunt. Il se demandait ce que ce malade, condamné par la science, dissimulait dans une cache aussi insolite. Il échafauda mille hypothèses. Il dut se rendre à l'évidence, aucune ne se révélait crédible. Ce qu'il retenait surtout, c'était la phrase d'introduction. « J'ai berné tout le monde ». Que signifiait ce message enregistré? L'action paraissait volontaire et l'enregistrement fait pour être entendu. Il en était sûr. Il aurait payé cher pour savoir quel secret donna la force indispensable à cet homme pour monter dans les derniers névés, dissimuler sa vérité. Il se souvenait d'une balade avec des amis, il y avait maintenant une dizaine d'années. La montée vers le plateau de la Croix de l'Alpe ne fut pas de tout repos, loin d'une promenade de santé. Il s'imaginait l'exploit accompli par Joël Lambert avec sa capacité respiratoire amputée par la maladie. Pourquoi n'avait-il pas choisi un endroit tout aussi pittoresque mais plus facile d'accès? Quelles obscures raisons font préférer un lieu à un autre? Les sentiments, tout simplement. Boucher tourna le problème dans tous les sens. Il regarda sa montre. Il rata l'émission qu'il souhaitait voir. Décidément, cela le perturbait au plus haut point. Jamais il n'arrivait en retard au bureau. Et ce matin, ce fut le cas. Il venait d'oublier d'allumer le téléviseur. Ses pensées se bousculaient au portillon. Il nageait dans un océan de perplexité. Une certitude l'habitait. Il ne dirait rien à qui que ce soit de ce déballage nauséabond. Il se devait d'abord d'éclaircir le mystère et savoir où orienter ses recherches. Le massif de la Chartreuse semblait tout indiquer, et le chemin de la Croix de l'Alpe plus particulièrement.